penser l'après? Toute cette semaine, on en parle avec nos invités, on ouvre cette réflexion de l'après, un mot qui est très utilisé en ce moment. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser à propos du documentaire. Entre-t-il dans une nouvelle ère? Comment raconter la réalité de la crise? Contenu créatif ou informatif? Forme participative? Depuis quelque temps, on voit apparaître de nouvelles initiatives pour documenter le réel. Comme Il est temps, lancé en fanfare par Arte fin mai dernier, une enquête internationale pour choisir le monde de demain. Bande-annonce.
Je me disais un truc là. Mmh. T'as pas l'impression qu'on nous demande jamais notre avis?
C'est-à-dire?
Bah, tu vois, tout se passe sans qu'on puisse dire genre, ah bah non, moi la réforme du travail, j'étais pas pour.
Ah oui, non mais clairement, enfin je veux dire, c'est pour ça qu'on sort dans la rue, pancarte à la main, qu'on manifeste, qu'on désobéit, qu'on bloque, parce que concrètement on nous demande jamais notre avis, donc on est obligé de l'imposer. Mais concrètement, on parle beaucoup de ce fameux monde d'après, mais est-ce qu'au fond vous vous êtes déjà vraiment posé la question? Qu'est-ce que vous voulez pour cette société demain?
Eh nickel, super, je l'ai lancé. Mais en vrai, là, t'as pas de solution à me donner, en fait.
Eh ben, figure-toi que si. On vient de sortir aujourd'hui avec Arte et en collaboration avec plein d'assos comme WWF, le REFED, le Manifeste étudiant pour un rêve écologique, bref, plein de gens, un questionnaire. Et concrètement, c'est 130 questions et c'est traduit en 8 langues. C'est des questions qui permettent de poser un vrai déclic profond et d'avoir des réflexions qui vont un peu plus loin sur des questions comme la démocratie, la justice sociale, le climat, la biodiversité, bref, le fameux monde d'après.
Le fameux monde d'après. Avec nous, Margot Missika, productrice chez Upian, boîte de production spécialisée dans la production de contenu en ligne, comme les web documentaires déjà à l'œuvre pour le projet Génération Quoi. Bonjour Margot.
Bonjour.
Et avec nous également, le documentariste Christophe Nick, réalisateur des Irlandais de Vincennes, avec Pierre Péan dans les années 90, de La mise à mort du travail avec Vialet, à la fin des années 2000, ou encore du documentaire Le jeu de la mort, où il faisait rejouer l'expérience de Milgram. Aujourd'hui, en charge de ce programme, Il est temps, lancé donc par Arte le mois dernier, une initiative transmédia de portée internationale, dont la phase 1, aujourd'hui on parle par phase 1, par phase 2, la phase 1 consiste en tout cas en une enquête participative en ligne, élaborée par un collectif de sociologues, ouverte à tous, mais principalement à l'adresse des jeunes pour comprendre le regard qu'ils portent sur l'époque, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux sociaux, économiques, voire démocratiques. Bonjour Christophe Nick.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Comment est né ce projet d'abord, Christophe Nick? Comment a-t-il émergé? Comment l'idée est venue? Est-ce que c'est tout récent, dû aux événements qu'on connaît, la crise sanitaire, ou est-ce que c'est un projet de longue date sur lequel vous travaillez?
Oui, c'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant le début des années 2010 avec Margot et nos petits camarades du Pian. L'idée, c'était au départ d'examiner les zones de fracture de la société française et d'utiliser et le documentaire et le web sous forme de questionnaire pour que les documentaires fassent le portrait d'une situation et sur le web, les gens fassent eux-mêmes l'autoportrait de ce qu'ils sentaient. Donc on s'est beaucoup focalisé sur la jeunesse, ce qu'on avait bien compris depuis ces années-là, 2010, qu'il y avait comme une rupture générationnelle assez forte, comparable peut-être à ce qu'on voyait dans les années 60. Et on a essayé de le mesurer. Et plus on mesurait, d'abord Génération Quoi, puis Génération What en 2016 dans toute l'Europe, puis en 2018 dans le monde arabe et en Asie, on s'est rendu compte que c'était un gouffre et que une génération exprimait des attentes et avait un regard sur le monde tel qu'il était absolument radical. Voilà, c'est-à-dire que aucune confiance dans la société dans laquelle on est et des perspectives très très noires sur la vision du futur, même s'il y avait beaucoup d'énergie et beaucoup de positif. Donc le prolongement naturel, on en parle avec nos amis d'Arte, Bruno Patino, Fabrice Puchot et toute la bande du web depuis la fin 2016. Donc vous voyez que ça remonte à il y a un moment. Et puis le mouvement réel de la société nous a rattrapés. Donc on a travaillé très fortement avec la NHK au Japon aussi à cette nouvelle étape qui est de se dire qu'une jeunesse allait hériter d'un monde. et qu'on voulait voir comment elle envisageait de ce changement climatique qui devenait quelque chose de catastrophique pour ceux qui sont un peu lucides. Et en tout cas, cette génération pointait dès 2016 que c'était sa préoccupation principale, bien avant la recherche du travail. Donc voilà, on a mis beaucoup de temps à mettre en place cet instrument. C'est super compliqué, mais voilà, on l'a lancé. Au départ, on devait le lancer en plein de ce qui est devenu le confinement. Donc on l'a retardé un peu pour faire les derniers ajustements. Et puis voilà, depuis fin mai, on est en place.
Donc c'est un projet qui tombe plutôt à point nommé. En tout cas, vous avez bien anticipé ce moment, malgré vous, inconsciemment peut-être, Margot Missika, ce fameux monde d'après, comme dit la jeune fille dans la bande-annonce de Il est temps. C'est vrai qu'on nous serine un peu avec, hein, et là particulièrement depuis quelques semaines, on nous dit qu'il y avait un avant, qu'il va y avoir un après, mais on le voit peu ou pas encore advenir. Est-ce que vous pensez qu'il existera un jour vraiment ce monde d'après, et vous le voyez comment?
Je pense qu'en tout cas, nous, dans notre démarche, il y avait l'idée de dire, à chaque fois qu'on fait quelque chose à Upian, on le fait dans l'idée de qu'est-ce que je peux faire sur Internet que je ne peux pas faire sur un autre média. Et une de ces choses, c'est de demander aux gens leur avis, de leur demander ce qu'ils pensent du monde. Et une un des éléments qui a été assez moteur pendant tout le temps où on a construit ce questionnaire, même avant cette idée du monde d'après ou du monde d'avant, c'était la question des contradictions intérieures entre nos valeurs et nos comportements. Donc c'est vraiment ce qui a sous-tendu ça. Et j'ai la sensation que ce monde d'après, il sera assez polarisé, c'est-à-dire qu'il y a des extrêmes qui partent un peu dans différentes directions. Et nous, notre objectif dans ce projet, c'est vraiment d'essayer d'évaluer qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens pensent, de quoi ils rêvent, de quoi ils ont peur, dans une idée de contribuer au débat public autour de ce monde d'après, sans forcément apporter directement justement des solutions ou des idées très arrêtées, mais d'agrémenter le plus de gens possible pour avoir des points de vue les plus divers possibles.
Est-ce qu'à travers ce questionnaire qui a été élaboré notamment par des sociologues, il y a déjà une grille de lecture de ce monde d'après? C'est-à-dire, est-ce que ces questions sont aussi assez subjectives? Est-ce qu'elles indiquent une tendance?
Alors, je m'embarquerai pas dans une analyse, parce que là, on est vraiment sur des résultats, ce qu'on appelle nous des résultats bruts, c'est-à-dire que toute l'opération qui va suivre va consister à extraire la base de données.
Je ne suis même pas sur les réponses, mais simplement sur les questions que vous avez développées et que vous posez.
Nous, on a orienté les questions dans une forme d'engagement, je dirais, qui est effectivement à la lecture d'un monde où la question du réchauffement climatique, des rapports du GIEC, de la destruction du vivant, ces genres d'informations sont à l'origine de ça. Et comme le disait Christophe, dans l'idée à la fois que c'était la préoccupation principale des gens qu'on avait interrogés sur Génération Hâte, mais aussi à l'aune des phénomènes qu'on voit émerger partout dans le monde, qui est que c'est le sujet majeur dont s'est emparée la jeunesse partout dans le monde. C'est-à-dire que ça a l'air d'être quand même une préoccupation très importante de cette génération qui va devoir gérer les conséquences du monde d'après.
Il est temps de quoi, Christophe Nick? Il est temps de renverser la table?
Il est temps de faire des choix. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Et donc effectivement, si le questionnaire a l'air assez brut comme ça, les questions sont fermées, c'est d'accord, pas d'accord, oui, non, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on hiérarchise, c'est vraiment de constater que, voilà, des premières tendances qui se dégagent, il y a une unanimité absolue, où qu'on soit sur Terre, pour se dire que cette société n'est plus du tout adaptée aux défis qu'elle doit relever. Donc la question, elle se pose plus de savoir s'il faut en changer ou pas. Ce qu'on voit bien, c'est qu'est-ce qu'on doit changer, comment on va le changer et où on va. Donc tout le questionnaire étendu par ça, entre effectivement valeurs et comportements, qu'est-ce que tu choisis? Où tu vas, qu'est-ce que tu préfères, quelles sont tes priorités. Donc c'est cash, mais en même temps c'est un outil. C'est-à-dire que c'est pas juste un outil d'analyse, c'est aussi un outil de débat. À partir du moment où on se met à plusieurs, déjà quand on est tout seul et qu'on y répond, ça prend du temps, hein. 133 questions, c'est massif, donc on répond pas en deux secondes, et ça vous plonge dans un univers de questionnements qui sont des questions qu'on se pose jamais parfois. et qui on passe du coq à l'âne, mais en même temps, quand on le fait à plusieurs, c'est un outil de débat absolument incroyable. Faites-en l'expérience, hein. Mettez-vous à 4 ou 5 avec un smartphone, chacun se met sur le questionnaire, et je vous assure que c'est une nuit entière à refaire le monde et à débattre, parce que la subtilité apparaît dans les raisonnements, dans les justifications de ces réponses, et donc c'est plutôt un outil, voilà, un nouvel outil médiatique, où c'est pas un message qui tombe d'en haut et qu'on... C'est beaucoup plus les gens qui font eux-mêmes le programme et qui nous remontent des informations qu'on va distribuer sur les antennes d'Arte et de Radio France, d'ailleurs, qui est partenaire à partir du mois...
Exactement, Radio France partenaire de cette opération, il est temps. Le documentaire entre-t-il dans une nouvelle ère? C'est donc la question qu'on se pose avec vous, Christophe Nick, et vous, Margot Missika. On a beaucoup raconté jusqu'ici, dans le sens de relater à travers les films documentaires. On a ensuite dénoncé. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui pour vous, Margot Missika, si je comprends bien le projet, de proposer?
Je pense que c'est important effectivement de voir que on parle du mot documentaire. Nous, on dirait raconter le réel, c'est-à-dire qu'il y a des approches peut-être extrêmement variées aujourd'hui et depuis un certain temps là-dessus. J'en profite pour préciser que le questionnaire est effectivement une partie du projet Il est temps, mais qu'il est accompagné justement de contenus audiovisuels, de vidéos coproduits avec On est prêt, contenus à destination des réseaux sociaux qui viennent aussi alimenter la réflexion autour du questionnaire, qu'il y a des documentaires qui vont être diffusés à l'antenne d'Arte à la fin de l'année, produits par Yami 2. Donc voilà, c'est un morceau et c'est très important effectivement de considérer, comme le disait Christophe, que c'est une expérience de programme. Pour nous, on le pense vraiment comme ça, c'est-à-dire que quand je suis en train de répondre au questionnaire, je suis d'une certaine manière dans un cadre de programme. Je dois avoir une expérience qui est agréable, qui me fait réfléchir et qui n'est pas juste une collecte de données et qui fait partie, en effet, la question de la participation, encore une fois, est un des outils que Internet, le web, le numérique, tous ces nouveaux médias nous offrent pour documenter le réel parmi une palette d'autres qui sont assez révolutionnaires et qui permettent de faire des choses... très diverses et...
Alors ce qui est nouveau vraiment, c'est l'échange, c'est la tentative d'écoute aussi de ces paroles. Il y a quelque chose de...
Même si la radio le fait depuis très longtemps, mais...
Sous cette forme-là, en tout cas, quand vous dites raconter le réel, c'est moins de verticalité aussi, le format participatif. Et ça, aujourd'hui, c'est souhaitable, voire souhaité, par le public aussi.
Je pense que les médias ne se concurrencent pas, en fait, directement. Je pense qu'ils ont chacun des avantages et des inconvénients, mais c'est sûr que on va dire que la télévision, si je prends cet exemple-là, est plutôt un média push, c'est-à-dire les informations m'arrivent forcément d'un endroit où je ne les contrôle pas, et Internet est un média de pull, c'est-à-dire je vais chercher une information, je clique pour démarrer quelque chose. Ça influence la manière et de concevoir et de raconter, et ça crée effectivement par... conséquence, une forme d'horizontalité qui est beaucoup plus à hauteur du public, à la place du public, dans une démarche qui est plus quelque chose de miroir. Nous, on utilise beaucoup cette notion de miroir quand on parle de « il est temps ». C'est quand je suis en train de répondre aux questionnaires et que je vois qu'est-ce que les autres ont répondu, puisque j'ai des résultats intermédiaires qui viennent régulièrement. C'est une façon de me positionner, moi, parmi des gens qui sont comme moi, et donc le programme se met à ma hauteur.
À nouvelle époque, nouvelles écritures, Christophe Nick, ça fait quelques années que vous faites des documentaires, des films, que vous racontez ce réel aussi, avec parfois des formes déjà très originales. Et je citais tout à l'heure le jeu de la mort, qui était par son contenu et par sa forme très particulier, comme récit documentaire. À nouvelle époque, nouvelles écritures, est-ce que les réalisateurs sont, eux, travaillés par cette envie de réinventer le genre? Est-ce que vous l'êtes, vous? Ou est-ce que ce sont les diffuseurs qui vous demandent de nouvelles écritures?
Oh, et ça, la question est énorme. Non, je pense que c'est beaucoup plus chaque sujet, chaque thématique, chaque chaque approche nécessite d'inventer une écriture. Donc évidemment, quand on est dans le format documentaire, on est sur des récits qui ont une limite de temps et qui s'adressent au plus grand nombre. Donc, raconter l'histoire du trafic de drogue, c'est pas les mêmes outils que d'enquêter sur un phénomène de psychologie sociale ou de raconter la vie de quelqu'un. Donc à chaque fois, c'est trouver des auteurs, des réalisateurs qui sont suffisamment motivés pour remettre en question ce qu'ils savent, pour repartir à zéro. Et c'est vraiment comme d'écrire un livre. À chaque fois, on invente une écriture en ayant son propre style et son approche et son regard. Après, ce qui est génial avec notre collaboration avec Upian, c'est effectivement de démultiplier les formes de récits en utilisant le web. C'est sûr que 10 ans avant, quand on a commencé, c'était tout frais. Ça n'existait pas avant. C'était inimaginable de faire participer les gens comme ça à faire qu'eux-mêmes fassent le programme. Donc ça, nous, on digère ça depuis une décennie et ça nous démultiplie l'envie d'intervention et effectivement ça permet de réinventer les écritures. Mais il y a une deuxième interaction et qui est fondamentale, c'est que la société s'est comme remise en mouvement et à l'appel de la jeunesse. Toutes ces thématiques qui sont là, au fond, l'idée du réchauffement climatique, on la connaît depuis 40 ans. Simplement, il y a un mouvement sociologique très, très, très profond, qui est assez rare dans l'histoire, hein, ça se produit quelques fois dans les siècles. Et ça nous remet l'urgence documentaire, l'urgence d'une époque, l'urgence du temps réel et du récit sur ce qui se passe de façon totalement différente. Ça nous redonne envie de faire des récits en immersion, c'est-à-dire de passer un an quelque part à suivre des activistes ou la pensée de X ou Y, parce que là on est en prise directe avec ce qui se passe, ce qui n'était pas vrai il y a 5 ans. Donc c'est aussi une évolution de l'époque, et ça c'est la force des médias, et soi. D'arriver à le comprendre et de convaincre un diffuseur, qu'il soit radio, télé, etc., que ce mouvement-là est devant nous, tout ce qui sont les signaux faibles qu'on voit depuis des années font sens et que il est temps, voilà, d'y consacrer des moments d'antenne, d'éditorialiser l'antenne, de s'en emparer pour jouer son propre rôle, qui est celui de transmettre du réel, du vécu, des émotions, de la pensée. Et on est dans ces moments rares là. Franchement, si je fais l'analogie avec la fin des années 60, c'est parce que ça y ressemble beaucoup. Et la place de la jeunesse est quelque chose d'inouï là-dedans.
Oui, vous faites cette analogie.
Vraiment, vous insistez là-dessus.
Et vous faites l'analogie avec les années 60. Est-ce que vous auriez pu aussi la faire avec la fin des années 80, de la chute du rideau de fer au massacre de Tiananmen que vous avez couvert, Christophe Nick? Ces changements d'époque, ces grosses ruptures que vous avez connues, est-ce que là vous envoyez les signaux? Est-ce qu'on est vraiment en train de tourner une page aujourd'hui, d'après vous?
Je crois que c'est plus profond que la fin des années 80, qui sont des moments d'histoire, des moments de rupture géopolitique et qu'on vit, qu'on subit avec des espoirs, des craintes, tout ce qu'on veut. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est la sociologue Cécile Van de Velde qui expliquait il y a un an déjà dans Le Monde qu'il y a ces moments très très rares où d'habitude la transmission des valeurs se fait de façon descendante. C'est les grands-parents qui transmettent à leurs parents et aux enfants, etc. Et puis il y a eu cette rupture à la fin des années 60 où au contraire c'est la jeunesse qui s'est mise à transmettre de façon ascendante des nouvelles valeurs à l'ensemble de la société et qui s'est mise à irriguer. On le constate aujourd'hui. Vraiment, la préoccupation climatique et de l'impasse dans lequel sont nos sociétés est quelque chose qu'on a mesuré en 2016. Et ça nous a pété à la tête, hein, franchement. Et c'est aussi vrai en Algérie qu'en Suède, au Japon, ou enfin partout où on regarde. Il y a un phénomène générationnel hyper puissant. Et on a vu les marches pour le climat, on a vu en même temps MeToo, on voit en ce moment Black Lives Matter, on voit un réveil très profond des sociétés civiles. dirigé par la jeunesse, par sa colère, par son envie de dire c'est plus possible, mais avec en plus une dimension qui là est complètement inédite, et qu'on vous allez le voir dans les documentaires qu'on fera en novembre, le point de départ est très morbide. C'est-à-dire que on se bat plus pour conquérir quelque chose ou pour garder quelque chose, mais parce qu'on est face à une menace de fin du monde. Et ça, nous, moi, je suis un vieux maintenant, hein, et quand je vois des jeunes qui réagissent comme ça, ça me glace le sang. C'est quelque chose de sidérant. Et Greta Thunberg en est l'expression, mais c'est quelque chose d'absolument massif. Écoutons les jeunes et on verra cette angoisse hyper profonde d'un monde qui est presque fini et qu'il faut complètement réinventer. Et on n'a pas de modèle.
Qui sont ces jeunes? Que veulent-ils? Un mot juste, Margot Missika, de ce projet sur lequel vous avez déjà travaillé, Génération quoi? Alors d'abord, Génération qui? Quelle est cette génération à laquelle vous vous attachez hier avec ce premier projet, aujourd'hui avec Il est temps?
Alors nous, on a défini, sur la toute première édition, après de longues discussions, négociations avec les sociologues, cette génération aux 16-34 ans. Parce qu'on voulait qu'elle soit le plus large possible. Évidemment, on n'est pas plus jeune à 34 ans, je le sais bien, j'ai eu 35 ans il n'y a pas très longtemps, donc je ne considère pas avoir changé radicalement en passant ce cap. Mais il y a l'idée d'une... Enfin, à l'origine, on a défini cette période parce qu'on voulait voir s'il y avait une génération qui se définissait notamment par rapport aux crises des années 2000. Et donc, ça permettait d'avoir une palette assez large des gens qui avaient vécu de manière consciente, notamment la crise des subprimes en 2008. Après, je ne suis pas, encore une fois, spécialiste de la sociologie, donc je ne me lancerai pas dans une analyse des résultats de Generation What, et Christophe est bien plus apte que moi à faire ça. Mais il y a quand même une... Enfin, pour moi, ce que j'en ai gardé, c'est qu'il y a il y a plusieurs jeunesses, et notamment, il y a une jeunesse très mondialisée, très insérée, justement dans ce monde qui deviendra peut-être le monde d'avant ou qui restera le monde d'après, je ne sais pas, et une jeunesse un peu à côté, qui n'a pas forcément pu bénéficier de tout ce que la mondialisation, les vols low cost, l'accès à la technologie, la nourriture, l'internet, etc., avait à offrir, et qui pour moi définit un peu le clivage qu'il y a entre... des points de vue sur, justement, quel est ce monde d'après.
Avec nous, Margot Missika, productrice chez Upian, boîte de production spécialisée dans la production de contenu en ligne et associée à ce projet Il est temps, lancé par Arte fin mai dernier, projet initiative internationale dont Radio France est partenaire. Et également le réalisateur documentariste Christophe Nick, qui peut effectivement peut-être plus facilement nous analyser les grands changements sociologiques, mais qui là est en prise avec la technique passant de la 4G à la 3G. On va lui laisser un instant. Pour l'heure, France Culture, il est presque 13h.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Vous avez évoqué l'importance aujourd'hui de raconter le réel, de le raconter peut-être autrement. Raconter le réel, c'est aussi le faire avec des fictions, avec des récits, comme dirait Cyril Dion, le cofondateur du mouvement Colibri et réalisateur du film documentaire Demain avec Mélanie Laurent. Film choc pour vous, Christophe Nick, qui a constitué un tournant pour beaucoup dans l'approche de cette réalité à raconter. On va écouter Cyril Dion.
L'ensemble des organisations sociales, l'ensemble des constructions humaines même, s'appuie sur des récits. Tout est récit. Les religions sont des récits, les États sont des récits, les idéologies comme le capitalisme, le libéralisme, le communisme, l'argent est un récit. Or, on a tendance à penser que ces récits sont la stricte réalité, et donc à imaginer qu'ils sont immuables. Et ces récits sont tellement puissants, tellement présents, qu'on finit par ne même plus les remarquer. C'est un peu comme l'air qu'on respire ou l'eau qui serait autour du poisson. Donc, quand chacun d'entre nous va commencer à faire quelque chose un peu différemment, va se mettre à aller, je sais pas, en vélo, au boulot, ou à devenir végétarien, ou quand on va avoir des discours qui vont contre le récit global, ça ne fonctionne pas. Si on veut vraiment transformer la société, pour moi, il faut pouvoir créer une conversation, créer un récit qui vienne remplacer le récit dans lequel on vit aujourd'hui,
Voilà, créer de nouveaux récits, dit Cyril Dion, de nouvelles fictions, faire travailler nos imaginaires, des fictions auxquelles adhérer. C'est une conversation mondiale que vous cherchez aussi à mettre en place, Christophe Nick.
Oui, enfin c'est aussi des comparaisons et d'embarquer le plus de monde possible, parce que c'est vrai que le récit qui marche en France, sa forme marche aussi bien dans n'importe quelle société, donc il n'y a pas de raison de se limiter, mais j'ai l'impression que ce que Cyril nous a dit et appris est quelque chose d'absolument fondamental. Au fond, son film a complètement renouvelé ce qui était un genre désuet et mort, qui est le film d'engagement, le film de propos, le film de démonstration, le film d'illustration. C'était vraiment quelque chose qui, depuis 40 ans, avait complètement disparu, parce que obsolète, parce que ras-le-bol des discours imposés. Et là, il est arrivé avec... et dans la forme et dans le fond, a complètement réinventé quelque chose qui a amené quand même plus +1 200 000 personnes en salle, ce qui est absolument prodigieux, et a déclenché un phénomène. C'est-à-dire que je me souviens de projections où à la fin, les spectateurs se réunissent et disent « Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On y va, quoi !» Donc, ça aussi, ça a été un signe très important, le film Demain, comme de catalyseur de quelque chose, mais en même temps, de nous faire très vite rentrer dans une nouvelle époque. Maintenant, ça dépend de nous. Et tout ça rejoignait tous ces débats sur une nouvelle démocratie participative, sur la fin des partis politiques, comment se réapproprier nos vies. Et d'avoir prouvé que le documentaire était le moteur et le véhicule catalyseur de tout ça, ça, c'est une révolution. C'est une révolution. Et depuis, Cyril poursuit, essaie de créer des laboratoires, des studios, d'écriture, etc. C'est vrai dans la fiction. Moi, j'avoue que dans le domaine du documentaire, je pense que ça rouvre un champ en tenant compte des leçons du passé. Hein, qu'est-ce qui rendait ce type de film insupportable et qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a appris avec des médias de masse à mieux piloter les écritures, à être beaucoup plus inventif dans les formes, à marier sans arrêt et l'émotion et la réflexion, mais en affirmant de plus en plus le point de vue et sans être militant, en restant engagé. Voilà. Et c'est vrai que si je fais le parallèle entre l'action climatique, MeToo et Black Lives Matter, on se rend compte que il y a la confluence de choses, de sensibilités, mais qui disent tous la même chose. C'est devenu insupportable, notre époque, et il faut qu'on la reprenne en main.
Vous pouvez peut-être, Christophe Nick, ajouter le chômage, et notamment le chômage des jeunes, qui risque de s'avérer important au lendemain de cette crise sanitaire et qui est une autre préoccupation de cette jeunesse, de ces 18-34 ans. Aujourd'hui, en plus de ces questions que vous avez évoquées, ces inégalités là, un mot de Margot Missica.
Non, je pense que, enfin, pour moi, il y a la présence du web, enfin l'existence d'Internet, des réseaux sociaux, etc., est très importante là-dedans, et c'est aussi pour ça qu'elle modifie la façon de raconter le réel. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui ont accès aux médias, qui peuvent raconter le réel, est beaucoup plus vaste et large qu'il ne l'a été. Il n'y a plus tellement de barrières à l'entrée. Et pour moi, c'est un des éléments fondamentaux du changement de récit aussi, et d'une des raisons pour lesquelles il y a une prolifération et une appétence, notamment de la jeunesse, pour le récit documentaire et d'information et de raconter, encore une fois, de la réalité de manière, on va dire, incarnée. Pour moi, ce que Cyril raconte, ce que Christophe décrit dans ce que Cyril Dion raconte, c'est aussi d'incarner, c'est-à-dire qu'on a beaucoup considéré que le documentaire c'était de l'objectif qui nous racontait la vérité absolue pendant un temps, et je pense que le fait de pouvoir prendre la parole, que beaucoup plus de gens puissent prendre la parole, ça a aussi ouvert à d'autres formes de récits et d'autres récits racontés par des gens qui n'avaient pas forcément accès à cette parole.
Donc c'est un forum, donc ça devient aussi un lieu d'échange. Est-ce que ça va pour autant, à vos yeux, à tous les deux, combler le déficit ressenti et exprimé dans la rue notamment, du débat démocratique aujourd'hui, Margot Missica?
Non, parce que je pense que c'est exponentiel, l'envie de démocratie participative et de pouvoir donner son avis. D'une certaine manière, plus on a l'espace de le donner et plus il y a de zones sur lesquelles on a envie de le donner. Et est-ce que c'est grave que ce soit pas suffisant? Je sais pas. Je pense que cette boulimie de vouloir donner son avis, elle a des conséquences pas géniales. On va pas se dire que Internet, les réseaux sociaux, c'est que positif. Mais ça reste un outil qu'on peut utiliser pour améliorer le dialogue, pour être le plus représentatif possible, pour sortir aussi d'une forme de d'être dirigé par des gens qui sont pas forcément, qui n'incarnent pas forcément toute une partie de la population, en tout cas qui ne se sentent pas représentés.
Christophe Nick.
Oui, on peut rajouter même l'observation qu'on pouvait faire du mouvement des Gilets jaunes, qui est quand même un mouvement qui est purement parti du web, et qui a eu sa maturation. C'est fascinant d'écouter Priscilla Ludowski aujourd'hui raconter comment l'engagement de centaines de milliers de gens qui étaient totalement invisibles et qui n'avaient droit à aucune parole, a amené au fil des mois quelque chose qui s'est mis à converger aussi avec les marches pour le climat, qui a compris des phénomènes qui jusque-là étaient observés que dans les cités ghettos. Donc quelque chose s'accélère. Voilà, tout se mélange. L'arrivée de nouveaux médias traduit quelque chose et en même temps l'amplifie. La réalité nous dépasse. Il faut absolument prendre en compte ça. Quelque chose de très très profond se passe dans nos sociétés et qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas juste un slogan le monde d'après. C'est les sociétés civiles se sont remises en marche et là on sait pas du tout où ça nous mène. Encore une fois, il n'y a pas de modèle à substituer à ce qu'on vit. Il s'agit de réinventer. Et peut-être que le succès de la Convention citoyenne et ces demandes qui viennent d'un peu partout, de refaire des assemblées citoyennes qui réfléchissent sur des choses, sont un des révélateurs de tout ça. Mais bref, cette époque est totalement passionnante.
Ouais,
elle est déstabilisante.
Mmh. Et un mot de conclusion?
Et elle nous amène à nous réinventer et à reprendre les caméras, les stylos et à retourner en bas, parce que c'est génial.
Et elle vous pousse à inventer des formes peut-être plus conformes aussi à nos nouvelles habitudes, à la fois de pensée et de consommation, des images. En un mot, Margot Missika, vous avez 35 ans, est-ce que la télé est morte ?
Non, je crois pas. Je crois qu'on consomme du contenu partout, tout le temps, de plus en plus, des formes qui sont diverses et variées. Moi, je suis pas du tout favorable à l'opposition des médias entre eux, donc ça doit cohabiter.
Voilà, cohabitation. Et le webdog n'est pas totalement arrivé à maturité non plus. Il est là encore lui aussi en train de se développer, de se repenser. Point d'orgue donc de ce moment, de cette grande enquête que vous avez lancée tous les deux, Margot Missika, Christophe Nick, avec plein d'autres. Ce seront 6 documentaires diffusés sur les antennes non linéaires et linéaires d'Arte à l'automne prochain. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci mille fois, à distance ou en studio. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Bruno Barada, Aurélien Delacroix et Henri Leblanc pour la préparation de cette émission. Anna Holweg avec Nasser Moussaoui à la réalisation et à la technique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.